Vous écoutez France Culture, il est précisément 18h. Et le journal de la rédaction, c'est avec vous, Lucas Caltritti. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. À la une ce soir, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'ancien ministre de l'Intérieur et dauphin de l'actuel président Kabila revendique déjà la victoire. Nous en parlerons dès le début de ce journal avec notre invité Gérard Gérold, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Au Bangladesh, les résultats partiels des élections législatives sont tombés. Ils donnent la coalition emmenée par la première ministre vainqueur. L'opposition demande la tenue d'un nouveau scrutin. Autre élection en Afghanistan, celle-ci est reportée à juillet prochain, en raison des craintes sur la sécurité ainsi que sur les éventuels dysfonctionnements, nous retrouverons notre correspondante à Kaboul. En fin de journal, vous entendrez le président de Médecins du Monde France. Il est signataire d'une tribune qui accuse l'État français de mise en danger délibérée des migrants. Pour lui, l'État faillit à sa mission. Les Congolais ont voté aujourd'hui, du moins ont tenté de le faire pour élire leur nouveau président. Beaucoup de retard dans les bureaux de vote, des bugs concernant les machines à voter. Le patron de la Commission électorale nationale indépendante l'a lui-même reconnu. Notre invité ce soir pour évoquer la situation électorale en République démocratique du Congo est Gérard Gérold, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors le dauphin de Joseph Kabila affirme ce soir avoir gagné les élections et être président dès ce soir. Et tout cela alors que tout le monde n'a pas pu encore glisser son bulletin dans l'urne. La revendication n'est-elle pas un peu rapide ?
Ça me paraît un petit peu rapide. Je viens d'avoir des coups de téléphone de Kinshasa où des amis qui ont mis 2 à 3 heures pour voter parce qu'ils étaient dans des files d'attente me disait qu'il y avait encore beaucoup de monde devant les bureaux de vote et que vraisemblablement, si on voulait que tout le monde vote, on ne fermerait pas les bureaux avant minuit. Donc je trouve un peu prématuré de la part d'un candidat d'affirmer qu'il a déjà gagné.
Voilà, parce que tout l'enjeu ce soir, en fait, pour tirer un bilan finalement de ce scrutin est de connaître aussi les taux d'ouverture des bureaux de vote. Est-ce que nous avons des informations précises là-dessus ?
Écoutez, vous savez que ces élections se sont passées hors de la vue des grandes missions internationales d'observation, puisque le Centre Carter et la mission d'observation européenne n'ont pas été invités. Alors, on est obligé de se fier soit aux réseaux sociaux, soit à la mission ou aux missions d'observation nationales, mais qui n'ont pas les mêmes moyens que les observateurs internationaux. Donc moi, j'ai recueilli un certain nombre d'informations et j'ai eu l'impression quand même de revivre un peu les élections assez chaotiques de 2011. Hein. Tout cela a démarré très tard, avec des ouvertures tardives des bureaux de vote. On pense que 40% des bureaux de vote ont ouvert en retard.
Mais finalement, quelle est la légitimité de ce scrutin avec autant de dysfonctionnements ?
Écoutez, ça, il faudra faire le bilan en fin de journée ou dans les jours qui viennent. On ne peut pas encore dire se prononcer sur la légitimité du vote. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des endroits où ça s'est passé à peu près correctement, d'après les informations que j'ai, par exemple dans le Congo central, dans le Maniema, dans le sud Kivu. Par contre, il y a des endroits où ça a été très dysfonctionnel, dans les Kasaï, dans le Kwango, dans la province de l'Équateur, dans le Haut-Katanga. Donc, il va falloir rassembler toutes ces informations pour pouvoir se prononcer.
Et la CENI, la commission électorale, doit donner le résultat de vote le 6 janvier, dans une semaine exactement. Est-ce que ça vous paraît envisageable ?
Écoutez, tout le monde convient que ce délai est extrêmement étroit. Je me rappelle en 2011, il avait fallu 12 jours pour obtenir le retour des procès-verbaux des différents bureaux de vote, jusqu'à la centralisation de la CENI à Kinshasa. Donc je ne vois pas très bien, parce que la logistique ne s'est pas améliorée entre 2011 et aujourd'hui, je ne vois pas vraiment comment la CENI pourrait publier des résultats présidentiels provisoires en 5 ou 6 jours. Alors, on reste qu'il y a ce problème qui est soulevé par l'opposition, c'est-à-dire de l'utilisation des machines à voter pour la transmission de résultats électroniques. ce que la loi électorale n'autorise pas.
Et très rapidement, une dernière petite question. Sans tomber dans la spéculation, vous parliez de 2011. Donc au regard de ce qui s'est déjà passé, doit-on craindre de nouvelles violences désormais ?
Écoutez, les risques de tension et de violence vont augmenter d'abord au fil de la journée et de la nuit. Parce que quand les gens, s'il y a une tentative de fermeture sans que les gens dans les files aient pu voter et au moment du dépouillement, les risques vont augmenter. Les risques de violence et de tension vont également augmenter à l'approche de la publication des résultats. Vous savez que en 2011, l'opposition et en particulier Étienne Tshisekedi à l'époque avait refusé d'accepter les résultats et qu'il en avait résulté 33 morts à l'époque à Kinshasa suite à des affrontements avec les forces de sécurité. Donc ce n'est pas à souhaiter, mais il est sûr que les risques de tension vont augmenter au fil des jours jusqu'au 6 janvier.
Très bien, merci beaucoup Gérard Gérold. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Élection au Bangladesh également, où la première ministre est en passe de remporter une large victoire aux législatives, à en croire les résultats partiels du moins, et ces résultats sont d'ores et déjà contestés par l'opposition. Le scrutin est entaché par de la violence et des accusations de trucage envers le parti au pouvoir. L'opposition exige tout simplement l'organisation d'un nouveau scrutin, Antoine Guinard.
Les résultats des élections législatives tombent au compte-gouttes au Bangladesh, mais la coalition menée par la Ligue Awami, le parti au pouvoir, a déjà une avance considérable dans une cinquantaine de circonscriptions selon la presse bangladaise. Le leader du front Jatiya Okiya, la grande coalition qui abrite une myriade de partis d'opposition, dont le BNP, le principal opposant à la Ligue Awami, a rapidement demandé l'annulation du scrutin. L'opposition exige que de nouvelles élections soient organisées sous la tutelle d'un gouvernement intérimaire. Malgré le déploiement de 600 000 membres des forces de sécurité à travers le pays ce dimanche, de nombreuses violences ont éclaté entre sympathisants de partis rivaux. La presse bangladaise fait état d'une quinzaine de morts et de dizaines de blessés. L'opposition accuse également la Ligue Awami d'avoir bourré les urnes et empêché leurs agents d'avoir accès aux bureaux de vote dans de nombreuses circonscriptions. La première ministre Sheikh Hasina devrait, sauf surprise, obtenir un troisième mandat consécutif à la tête du pays. La tournure de ce scrutin donne toutefois raison à l'opposition qui dénonce la répression systématique organisée par son parti depuis plusieurs années. Le BNP et ses alliés accusent notamment la Ligue Awami d'avoir arrêté une quinzaine de milliers de leurs sympathisants ces dernières semaines afin de saboter leur campagne électorale.
Antoine Guinard. L'élection présidentielle en Afghanistan, cette fois, est reportée de 3 mois. Elle devait avoir lieu le 20 avril. Elle aura finalement lieu le 20 juillet afin d'en faciliter les préparatifs. Ce report doit permettre au gouvernement d'éviter que se reproduisent les incidents qui ont perturbé les législatives d'octobre dernier, marqués en particulier par des dysfonctionnements des équipements électoraux. Ce scrutin se tiendra dans un contexte également de dégradation sécuritaire. Le pays est englué dans un conflit qui oppose les insurgés talibans aux forces gouvernementales soutenues par la communauté internationale. Un conflit auquel les violences du groupe État islamique se sont ajoutées depuis 2014, les précisions de Sonia Ghezali.
La rumeur d'un report du scrutin circulait depuis plusieurs semaines déjà dans le pays. L'annonce officielle de la commission électorale indépendante ne suscite donc aucune surprise. Comment songer à l'organisation de nouvelles élections alors que les résultats du scrutin législatif du 20 octobre dernier n'ont toujours pas été donnés pour 3 provinces, dont celle de Kaboul, en cause d'énormes problèmes d'organisation et de matériel biométrique, ainsi que plusieurs allégations de fraude. C'est justement ce que voulaient éviter les organisateurs du scrutin qui avaient promis la transparence grâce à un système de vérification biométrique des votes, un système qui s'est révélé défaillant dans plusieurs bureaux de vote. Le scénario de 2014 ne se répétera pas, promettait la commission électorale. Les électeurs et les candidats ne cachaient pas leur crainte de voir des fraudes massives, comme lors de l'élection présidentielle qui a permis à Ashraf Ghani d'accéder au pouvoir après des jours de négociations pour parvenir à un accord avec son rival dans les urnes. La sécurité qui s'est considérablement dégradée au cours des 2 dernières années est aussi à prendre en compte. Les États-Unis mènent par ailleurs une campagne active auprès des représentants des talibans pour les convaincre de s'asseoir à la table des négociations avec le gouvernement afghan en vue d'un processus de paix. Ce report leur donne plus de temps pour les tractations en cours.
Correspondance de Sonia Ghezali à Kaboul. Scène rare en Iran, des centaines d'étudiants ont manifesté dans la capitale Téhéran et ce pour le deuxième jour consécutif. Les étudiants protestent après la mort de 10 personnes dans un accident de bus sur leur campus. Ils exigent la démission du président du conseil d'administration de l'université. Plusieurs responsables ont déjà été licenciés à la suite de cet accident et certains ont été arrêtés. En Égypte, l'appel d'une militante féministe est rejeté. Amal Fati a été condamnée en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo où elle dénonçait l'inaction du gouvernement égyptien face au harcèlement sexuel. C'est une terrible nouvelle pour tous les soutiens de la militante. Sa condamnation à 2 ans de prison est donc maintenue. Au Caire, la correspondance de François Ferkataji.
Après avoir été mise en liberté conditionnelle il y a seulement 4 jours, Amal Fati devrait retourner en prison pour purger sa condamnation à 2 ans d'enfermement. Un tribunal de Gizeh a rejeté la demande d'appel de la militante égyptienne, condamnée pour diffusion de fausses nouvelles après la publication sur Facebook d'une vidéo. Amal Fati est aussi poursuivi dans un autre procès, suspecté d'être membre d'une organisation terroriste. Amnesty International dénonce un procès injuste et exige la libération immédiate de la défenseure des droits de l'homme. Sont plusieurs dizaines de défenseurs des droits humains, avocats, humoristes, blogueurs, journalistes à être derrière les barreaux sous le même numéro de dossier, l'affaire 621. Le cas d'Amal Fati est devenu l'un des plus emblématiques. L'Égypte est régulièrement accusée de bâillonner toutes les voix critiques sous couvert de lutte contre le terrorisme. Le pays a aussi été épinglé plusieurs fois pour pratiquer des actes de torture quasi systématiques contre les prisonniers politiques qui seraient près de 50 000 selon plusieurs ONG.
François Ferkataji. À 3 mois du Brexit, Jean-Claude Juncker appelle les Britanniques à se reprendre. Le président de la Commission européenne rejette les accusations d'un agenda caché de l'Union européenne sur un éventuel maintien du Royaume-Uni dans l'UE. Il estime qu'il est déraisonnable qu'une partie de l'opinion publique en Grande-Bretagne pense que l'Europe doit trouver une solution à tous les problèmes futurs de l'Angleterre. Le Parlement britannique, lui, est en pleine pause pour les fêtes de fin d'année et n'est toujours pas parvenu à valider un accord de sortie. On l'a appris il y a quelques minutes, un détenu s'est évadé de la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Les faits sont déroulés cet après-midi. L'homme a escaladé le mur d'enceinte avec une échelle de cordes et de draps. Les surveillants ont tiré à plusieurs reprises, mais le détenu a réussi à s'enfuir. Il avait déjà été condamné à 3 ans de prison pour avoir tenté de s'échapper d'un tribunal. Il n'y aura plus personne à la rue fin 2017. C'était un engagement d'Emmanuel Macron. Et face à cet échec, 18 mois plus tard, 14 associations accusent l'État français de mise en danger délibérée des migrants dans une tribune publiée par le JDD aujourd'hui. La situation se dégrade dans plusieurs villes et notamment à Paris ou à Grande-Synthe dans le Nord. Et selon Philippe de Botton, président de Médecins du Monde France, l'État faillit à sa mission alors que des solutions existent. Je vous propose de l'écouter.
Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de donner les moyens humains, matériels. Mais nous, les associations, on est prêts à les aider. On a des propositions. Il y a beaucoup d'immeubles à réquisitionner. Nous sommes prêts à faire le travail. Nous, Médecins du Monde, on peut très bien assurer, s'il le faut, en lien avec le droit commun, l'assistance médicale et psychologique. Il y a d'autres associations qui ont d'autres objets sociaux et qui peuvent très bien. Nous, on est tout à fait prêts à collaborer avec le gouvernement. Mais le problème, c'est que les autorités n'ont pas cette volonté. Non seulement elles n'ont pas cette volonté, mais au contraire, elles font le contraire, c'est-à-dire qu'elles font tout pour que ces gens-là n'existent pas et partent. Or, ces personnes, le problème, c'est que ces personnes ne partent pas parce qu'elles sont là, elles sont fixées. Ils restent dans des conditions absolument déplorables, ils ne peuvent pas rester à des endroits, personne ne les loge. Pourtant, beaucoup d'associations, on a demandé au préfet, on a demandé à la mairie de Paris, on a demandé au préfet de la région Nord, etc., au maire de Grande-Synthe. Aucune solution n'est proposée pour ces gens-là, c'est une véritable urgence. Il y a des gens qui vivent dans des conditions indignes d'un pays comme la France. Il y a vraiment une situation de détresse et d'urgence importante pour des personnes qui sont quand même des êtres humains, qui sont là depuis des mois, qui sont invisibles, qui sont en véritable errance, etc. Enfin, je veux dire, là vraiment, c'est un cri d'alarme.
Propos recueillis par Laura Dulieu. Enfin, pour terminer cette édition, un rapide point sur la météo. Il y aura peu de changements à noter pour demain. De la grisaille encore et toujours au nord et sur le sud-ouest et du beau sur le sud. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Caroline Benetto et à la technique Pierre Faucillon.